Alors ce soir, nous allons avoir le plaisir d'entendre Gabriela Croco, qui est une de nos plus éminentes logiciennes, philosophe de la logique et épistémologue. Ça ne marche pas ou ça marche? Ça marche? Bon. Donc, je me répète, nous allons avoir le plaisir d'entendre Gabriela Croco, qui est une de nos jeunes logiciennes et philosophes de la logique les plus remarquables. Elle est aussi épistémologue. Elle est maître de conférences, habilitée à l'Université de Provence. Et alors, j'ai tenu à ce parce que nous lui donnions l'occasion de s'exprimer, parce qu'elle s'est beaucoup intéressée aux travaux de Villemin, entre autres choses, sur la classification des systèmes philosophiques, un sujet sur lequel elle a écrit des articles particulièrement intéressants, perspicaces et particulièrement intéressants. Et puis, elle s'est interrogée notamment dans le contexte d'une réflexion sur le travail de Villemin, de façon très approfondie, sur le problème des relations entre la science et la philosophie. Ce qui a un rapport tout à fait direct avec la question qui nous intéresse cette année, qu'est-ce qu'un système philosophique, pour une raison que j'ai eu l'occasion d'évoquer, c'est-à-dire que la question de savoir si la philosophie peut et doit ou non être systématique est très souvent liée de façon plus ou moins directe à la question de savoir si elle peut ou non être une science, hein, c'est-à-dire se présenter plus ou moins sous la forme d'une science. De façon générale, les gens qui pensent que la philosophie peut et doit être systématique sont des gens qui croient à une certaine proximité entre la méthode de la science et celle de la philosophie, ou en tout cas, c'est le cas de Villemin, à l'existence d'une relation organique entre la philosophie et les sciences. Tandis que les gens qui contestent plus ou moins radicalement la possibilité et l'obligation pour la philosophie d'être systématique sont des gens qui ont tendance à penser qu'il n'y a pas grand rapport entre la démarche de la philosophie et celle des sciences. C'est un peu le cas de Wittgenstein en particulier. Par conséquent, je pense que Gabriela Croco a eu tout à fait raison de poser la question dont elle va nous parler ce soir, c'est-à-dire la question des rapports de la philosophie et de la science dans la pensée contemporaine. Gabriela, vous avez la parole.
Merci. Et donc je vais justement commencer avec cette question, la philosophie peut-elle systématique et doit-elle l'être? Alors, je voudrais d'abord reprendre cette question dans les mêmes termes que Jacques Bouverès au début, l'a posé au début d'un article paru dans Studia Philosophica en 1982. Terme qu'on retrouve également dans un article de Damette qui sert de point de départ aux réflexions de Jacques Bouverès. Jacques Bouverès se demande si aujourd'hui la philosophie doit persévérer dans la recherche de la systématicité, au double sens de la systématicité de la méthode et de la systématicité des doctrines, articulée en un corpus unique de vérité. Cette nature systématique donnerait alors à la philosophie une forme assez proche de celle des sciences et la notion de systématicité s'identifierait à celle de scientificité. Plus précisément, a-t-on le droit de persévérer dans la recherche d'une philosophie scientifique en ignorant l'absence, depuis toujours, de résultats tangibles et définitifs dans l'accomplissement d'une telle entreprise? Ne serait-il pas plus sage pour la philosophie de renoncer délibérément et explicitement à être systématique pour s'exercer désormais dans une forme beaucoup plus éloignée de celle de la science et plus proche, par exemple, de celle de la littérature, de la poésie, de la conversation ou de la thérapie? Dans cette perspective, le débat sur la nature systématique ou non de la philosophie s'engage sur deux fronts. D'une part, la question de l'utilité d'une telle philosophie scientifique. D'autre part, la question de l'actualité d'une telle entreprise systématique. À propos de l'utilité, on affirme que la partie propre et doctrinaire de la philosophie concernerait l'étude des fondements des sciences, ou du moins qu'elle tâcherait, à l'aide de la théorie de la connaissance, ou de la logique au sens large, ou de la théorie de la signification, d'unifier les sciences par les biais de l'unité de ceux qui les fondent. On se demande alors si les sciences ont besoin d'une telle enquête fondationnelle ou d'une unité toute extérieure à leur pratique. À propos de l'actualité, question qui n'apparaît pas explicitement dans les textes de Bouverès, mais qui peut être soulevée à un titre égal, on se demande alors si l'idée d'une philosophie scientifique et systématique n'est pas irrémédiablement périmée. S'il est vrai, comme le soutient Foucault dans son article « Qu'est-ce que les Lumières ?», qu'une des marques de la modernité réside dans l'idée d'un rapport, je cite, « nouveau entre la philosophie et son temps », rapport vu sous l'angle de l'actualité, de l'énigme d'un présent qu'il faut dévoiler, interpréter, incarner, en en révélant la singularité philosophique, alors on pourrait affirmer que, de même que certaines formes d'art, comme le chant épique ou l'opéra, la forme systématique de la philosophie est inactuelle. Bien qu'il puisse y avoir des gens qui continuent à la pratiquer, comme il y a des musiciens qui composent encore des opéras, il ne s'agit que des marginaux, en leur temps, incapables d'en incarner l'éthos. À la fragmentation, à la spécialisation, à la vitesse et à la complexité de notre temps, l'aphorisme en Sisyphe est beaucoup plus approprié que la lenteur prétentieuse d'un système. Si la philosophie se rapporte à ce « nous » présent, à un ensemble culturel caractéristique de sa propre actualité, la philosophie systématique, dans sa prétention de scientificité, serait une forme définitivement périmée de l'activité philosophique. Alors, si je rappelle ainsi une des formes dans lesquelles Jacob Ress et d'autres ont discuté la question de la systématicité de la philosophie, ce n'est pas à vrai dire pour m'engager en première instance dans une réponse qui prendrait parti pour ou contre l'utilité et l'actualité d'une philosophie systématique et scientifique. Je voudrais plutôt, à titre préliminaire, m'interroger sur la forme de cette question et sur le rapport qu'elle instaure entre systématicité et scientificité. Un problème préliminaire qui me semble digne d'examen est le suivant. Quand et comment en est-on venu à cette forme de la question? Quelle en est l'origine et quels événements, philosophiques ou non, ont précédé à sa formulation? Quand et pourquoi a-t-on identifié la question de la systématicité et la question de la scientificité possible de la philosophie? Cette enquête préliminaire suggérera en effet comment des alternatives à cette question de la systématicité dérivent d'une problématisation des relations entre vérité scientifique et vérité philosophique. Je voudrais en effet, dans la deuxième partie de cet exposé, esquisser les traits principaux d'une conception extrêmement originale de la nature systématique de l'entreprise philosophique, conception que l'on doit à Juvimain. Elle met les rapports entre science et philosophie au cœur du problème qui nous occupe, car elle découle d'une double mise en regard de l'histoire de la philosophie et de l'histoire des sciences. Je conclurai, me rapprochant ainsi du titre proposé pour cette communication, en indiquant ce qui me semble être le cahier des charges, la tâche qu'une telle conception nous impose. Je me contenterai de l'illustrer par un exemple, celui de l'œuvre de Jules-Henri Poincaré, savant et philosophe du XXe siècle. Alors, première partie. Sous l'origine de notre question, je pourrais lui donner comme titre « On ne peut plus philosopher comme au temps de Descartes et de Leibniz ». Permettez-moi de commencer par un texte auquel on pourrait enjoindre, comme le remarque Paul Hasard, beaucoup d'autres, parmi lesquels les traités des systèmes de Condillac, de l'ignoranza de Pietro Verri, le Candide de Voltaire ou la voix enthousiaste de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Ce texte, le 21e chapitre des Bijoux indiscrets de Diderot, témoigne, avec peut-être plus d'ironie et verve que d'autres, de l'acharnement d'un siècle contre une certaine manière de philosopher qui est d'emblée rejetée au-delà des limites de la modernité. Je rappelle le contexte. L'héros des Bijoux indiscrets, Van Gogul, rêve d'être transporté par un hippogriffe dans un édifice étrange qui ne repose sur aucune fondation. Ses colonnes fragiles se perdent dans les cieux et reposent sur des voûtes percées. C'est les royaumes des hypothèses habitées par les systématiques. Des étranges personnages, des vieillards sans force et presque tous contrefaits. L'un, dit Diderot, avait la tête trop grande. L'autre, les bras trop courts. La plupart sans pieds, au point qu'un souffle les faisait tomber et qu'ils demeuraient par terre jusqu'à ce qu'il prît envie à quelques nouveaux débarqués de les relever. Traversant la foule, Mangogul arrive à une tribune qu'une toile d'araignée surmonte en guise de dé et où il se tient, un vieillard à la barbe blanche en train de souffler dans une paille des boules de savon que ses enfants décrépits s'emploient à porter dans les nuages. Mais on aperçoit un enfant qui marche vers l'édifice. Il avait la tête petite, le corps menu, les bras faibles et les jambes courtes. Mais tous ses membres grossissaient et s'allongeaient à mesure qu'il avançait. Dans le progrès de ses accroissements successifs, il m'apparut sous cent formes diverses. Je le vis dirigé vers le ciel en long télescope, estimé à l'aide d'une pendule la chute des corps, constaté avec un tube rempli de mercure la pesanteur de l'air et, le prisme à la main, décomposer la lumière. C'était alors un énorme colosse. Sa tête touchait aux cieux, ses pieds se perdaient dans l'abîme et ses bras s'étendaient de l'un à l'autre pôle. Il secouait de la main droite un flambeau dont la lumière s'étendait au loin dans les airs. C'est l'expérience qui, en s'approchant de l'édifice vétuste, ont fait chanceler les colonnes, effondrer les voûtes et entrouvrir le pavé. Sous le pas de l'expérience, la maison des systématiques dans la région des hypothèses s'écroule dans un bruit effroyable. Alors, ce texte me donne l'occasion de faire deux remarques. La première concerne le fait que la naissance de la physique expérimentale, à laquelle Diderot se réfère explicitement, et plus précisément le triomphe du newtonianisme, sont ressentis comme des événements charnières, représentant la victoire de la science moderne sur les enfantillages de la tradition. Alors, je crois qu'on ne comprend pas l'origine de cet idéal de philosophie scientifique dont on parlait plus haut si on ne comprend pas l'origine de l'idée de science dont il est issu. On ne comprend pas pourquoi l'expérience détruit la maison des systématiques si on ne comprend pas comment ce siècle finissant a voulu définir son propre progrès scientifique. Le newtonianisme a gagné et l'on ne doit plus donc philosopher comme au temps de Descartes et Leibniz. Le progrès de l'histoire des sciences a montré à quel point était fictive la vision du newtonianisme défendue par D'Alembert et Voltaire. Ils écartaient la métaphysique et la théologie de Newton pour ne garder que deux traits propres à sa mécanique, l'extrême précision dans l'application des mathématiques aux phénomènes naturels et l'abstention de tout modèle mécanique explicatif. Et il le faisait avec une intention polémique essentiellement destinée au débat français. Par cette réduction de la pensée newtonienne, il construisait en effet un modèle de rationalité tout contraire à celui cher aux cartésiens, pour qui le but n'était pas de calculer et de mettre en accord les mathématiques avec les données de l'expérience, mais plutôt, pour le dire avec Fontenelle, dans le fait de contenter sa raison. Je cite texte de Fontenelle, 1752, « Quand on veut exprimer algébriquement ou géométriquement les forces physiques et agissantes dans l'univers, et qui ont nécessairement par leur nature de certains rapports et se sont renfermées dans certaines conditions, il ne suffit pas d'avoir bien fait un calcul dont le résultat serait infaillible et sur lequel on sera sûr de pouvoir compter. Il faut encore, pour contenter sa raison, entendre ses résultats et savoir pourquoi il est venu tel qu'il est. » Fin de citation. L'acharnement que les encyclopédistes montreront envers toute explication causale qui prétendrait rendre compte de la nature des phénomènes, le mépris qu'ils affecteront contre cette exigence de satisfaire la raison, n'est pas tout à fait simple à expliquer. Les Lumières ne constituent pas une idéologie compacte et cohérente, et aucune généralisation ne pourrait rendre justice de la finesse et de la subtilité des bons esprits militants de cette époque. Et pourtant, on a du mal à ne pas éprouver une certaine perplexité face au paradoxe de ce XVIIIe siècle. D'où vient ce paradoxe? Eh bien, d'une part, comme le dit Jean Hérard, de la facilité trop grande avec laquelle on s'accommode d'une science pratique, d'une science rentable au risque calculé et du profit immédiat d'un monde aussi rationnel qu'elle exige le confort d'une vie bourgeoise, mais assez déconcertant pour décourager d'avance toute investigation périlleuse. On ne regrette nullement les grandes spéculations d'un siècle encore proche et on les revendique. D'autre part, dès l'influence certaine des temps décriés systématiques Descartes et Leibniz sur la science et la pensée du XVIIIe siècle. Le progrès des mathématiques et de la mécanique du XVIIIe est rendu possible par le développement du calcul, de la géométrie algébrique et des concepts comme ceux d'équilibre, de force et de masse que Descartes et Leibniz avaient contribué à développer autant que Newton. Enfin, ce paradoxe vient de l'observation de la réalité historique d'un siècle, le XVIIIe, qui a vu se multiplier exponentiellement les querelles scientifiques, tout en affirmant, en son terme, avoir trouvé la voie du progrès cumulatif et du consensus universel dans un acte d'humilité face aux questions insolubles qui provoquent nécessairement les disputes de mots et la cacophonie des explications incompatibles. Le XVIIIe siècle a vu effectivement les luttes de tous contre tous, les algébristes cartésiens et les logiciens scolastiques contre les analystes du calcul des fluxions contre ceux des infinitésimaux, les impulsionnaires et les vorticoses, comme dit Diderot, contre les attractionnistes, et encore les dynamiciens de la force versus ceux de l'équilibre, ceux qui font de l'attraction une propriété de la matière et ceux qui raisonnent en termes d'éther, sans parler de la querelle des forces vives. C'est pourtant dans ces luttes parfois violentes qu'ont été produits les principes récoltés dans les grandes synthèses unificatrices de la fin du siècle. Il suffit de penser, par exemple, au travail de Lagrange en algèbre, analyse et mécanique. Le paradoxe est là. Peut-être s'évanouit-il s'il est pensé dans les termes d'une réaction. Le siècle finissant, qui a grandi dans les disputes philosophiques, croit profondément posséder la clé de la méthode scientifique dans l'abstinence métaphysique, dans la recherche de la simplicité et de la généralité par le langage des mathématiques et dans l'observation de la nature. L'écroulement de la maison des systématiques dans le rêve de Mangogul symbolise cette image de la démarche scientifique propre aux Lumières. Cette idée de la science, avec ses caractères antimétaphysiques, son formalisme empiriste et son éclectisme pragmatique, naît essentiellement comme réaction aux querelles philosophico-scientifiques caractéristiques du XVIIIe siècle, si importantes toutefois pour la formation de ce qu'on appelle aujourd'hui la science moderne, la mécanique classique ou le calcul. La deuxième remarque que le rêve de Mangogul m'inspire concerne l'effet sur la philosophie d'une telle idée du progrès scientifique. On ne peut pas philosopher comme autant de Descartes et de Leibniz. Il n'est plus possible d'avoir une pensée philosophique qui ressemble à l'ontologie ancienne, c'est-à-dire à une théorie de l'être préalable à la science. Il n'y a plus de catégorie objective préexistante à la science et substituable à cette pensée révolutionnaire et active qu'est l'enquête scientifique sur la nature. Révolutionnaire et active, car elle a en elle-même les ressorts de son propre progrès, car elle est collectivement, mais indépendamment et presque malgré ses acteurs, une entreprise destinée à rompre avec tous les préjugés et à trouver la voie du progrès et du consentement universel. La science est autonome et indépendante de la spéculation philosophique, avec ses formes irrémédiablement plurielles. La naissance de cette idée de science constitue donc l'événement essentiel qui a modifié le regard de la philosophie sur elle-même. Évidemment, l'idée d'inventer des nouvelles méthodes qui fassent tabula rasa des attitudes du passé, le plaidoyer pour l'abandon des rêves impossibles, l'idée de limiter pour mieux fonder une philosophie qui finalement rencontre le consentement universel dans ses méthodes et ses résultats, constitue un leitmotiv de la philosophie que l'on peut difficilement circonscrire aux Lumières. Ce qui est nouveau et propre aux Lumières, c'est par contre cette idée de la postériorité de la philosophie. Cette manière nouvelle par laquelle, comme le dit Husserl dans la préface à la Crisis, la philosophie devint à elle-même problème. Ce constat paradoxal par tous ceux qui connaissent l'entrelacement de la science et de la philosophie pendant les grands siècles, ce constat donc de l'échec de la philosophie dans le progrès des sciences. Les autres branches de la connaissance ont déjà progressé de manière cumulative, sans que les disputes ne les paralysent, sans que la violence de leurs batailles ne les détruise. Seule la philosophie demeure en reste de ce progrès. Le scandale de la philosophie est donc avant tout comparatif. Il est affirmé par opposition à ce qui est déjà ressenti comme irrémédiablement autre qu'elle. C'est un scandale car le pluralisme est reconnu comme un obstacle au développement de la science et à l'idée même de vérité scientifique. Il faut évidemment se garder des généralisations hâtives, surtout quand le débat sur ces questions s'enracine dans des traditions philosophiques différentes. Une analyse comparative de ces idées en France, en Allemagne, en Angleterre est encore loin d'être accomplie. Toutefois, c'est un fait que ce constat, celui de la pluralité litigieuse des philosophes, face à l'univocité et à la cumulativité des vérités de la science, est répétée avec une constance étonnante dans les contextes les plus variés tout au long du XIXe siècle jusqu'au début du XXe, avec des exceptions remarquables, bien évidemment, mais tout au moins avec une constance certaine. De Kant à Guéroult, de Comte à Carnap, de Braunschweig à Canguilhem, sans oublier Husserl et bien d'autres, chacun s'accorde à faire ce constat, bien que les conséquences tirées puissent être tout à fait différentes. Même lorsque le développement tumultueux des mathématiques et des nouvelles branches de la physique à partir de la fin du XIXe siècle ébranle l'idéal de science sous lequel s'était construit ce constat, même lorsque l'histoire des sciences remettra en question de fond en comble l'image de la démarche scientifique, les philosophes, de leur côté, songeront rarement à remettre sur le métier la question de l'horreur de la pluralité philosophique héritée des Lumières. Il n'y a pas, tout compte fait, à s'en étonner, du moment où la philosophie des sciences, même si c'est au prix de la multiplication des catégories de révolution, changement des paradigmes et ainsi de suite, permet de sauver, au pire par le consensus sociologique de communautés scientifiques, l'idée de la démarche unitaire et autonome de la science. Face à ce constat, il ne reste à la philosophie, ou du moins à la philosophie engagée envers la science, celle qui ne choisit pas la voie polémique d'une extériorité totale à la science et à ses catégories, que deux voies pour affirmer sa spécificité. La première, sans doute la plus directement proche de l'esprit des Lumières, consiste à persister dans cette idée d'une vérité philosophique qui devrait se conformer au canon de la vérité scientifique et à persister par conséquent dans la recherche d'une philosophie systématique parce que scientifique. Elle assume alors cette attitude typique des Lumières, du geste d'humilité suivi d'une affirmation d'orgueil. Il faut limiter pour mieux fonder ses propres prétentions. Et cette limitation s'obtient ou bien par une science des limites de la raison, une théorie de la connaissance à la manière de Kant, ou bien par une logique au sens étendu, à la manière de Russell, mais aussi de Husserl et en dernière instance de Damet. La deuxième voie consiste à rejeter un idéal de vérité philosophique étroitement apparenté à celui de vérité scientifique et à problématiser par conséquent la relation entre vérité scientifique et vérité philosophique. Le naturalisme des Lumières de passé, et avec lui la notion de vérité comme correspondance, c'est la nature même de l'entreprise scientifique qui est transformée. Il ne s'agit plus de décrire ou de déprendre la réalité, mais d'instituer des langages et des règles par lesquels la notion de vérité se trouve déterminée. Le XXe siècle a, je crois, exploré toutes les latitudes sous lesquelles une telle entreprise pouvait être menée, et cela en sauvegardant ou non l'idéal d'une philosophie systématique. Parmi les attitudes de cette deuxième voie, il y a celle chère à Wittgenstein. S'il y a une spécificité de l'enquête philosophique, elle s'exprime, comme Jacques Pauvresse nous l'a enseigné, par un déplacement significatif des termes propres aux Lumières. La philosophie ne poursuit plus la quête des Lumières d'une théorie des facultés, capable d'éclairer l'unité de la science ou la recherche d'une théorie des fondements susceptible de rendre les objets de la science transparents à la raison. Elle vise la clarté du langage. Elle n'a plus pour but le bonheur qui suit l'acte libératoire d'oser savoir, mais la sérénité procurée par la conscience d'avoir honnêtement emprunté les chemins capables de conduire à la dissolution des problèmes faussement profonds et des impasses qui en résultent. En somme, l'une et l'autre de ces voies, la voie de la philosophie scientifique et celle, pour le dire vite, de la philosophie sceptique, restent, me semble-t-il, profondément ancrées dans l'héritage des Lumières, dans leurs tentatives diverses d'en poursuivre, dépasser ou déplacer les idéaux. En effet, l'image assez fictive de la science positive, dont l'origine doit être recherchée dans les Lumières, induit l'horreur de la pluralité philosophique et la certitude de la postériorité de la philosophie par rapport à une science autonome. Cette horreur et cette certitude survivent, me semble-t-il, à la désintégration de l'image de la science, si chère aux Lumières, dont elles sont issues. Deuxième partie, donc, l'originalité profonde. L'originalité profonde de la conception de la philosophie de Juvimain réside exactement dans la tentative d'accepter la pluralité philosophique comme une valeur, tout en échappant au relativisme, tout en utilisant la notion de vérité philosophique et en problématisant ses rapports avec la vérité scientifique. La réflexion de Juvimain s'inscrit dans une tradition philosophique qu'il faudrait attentivement reconstruire. Il y a, en premier lieu, le rapport revendiqué avec la tradition structuraliste en histoire de la philosophie, initiée par Martial Guéroux. Juvimain partage avec Guéroux l'idée que les systèmes philosophiques sont des architectoniques rationnelles, cohérentes et démonstratives. Il reconnaît également le caractère normatif lié à une telle caractérisation des systèmes philosophiques, laquelle exclut d'emblée toute tentative éclectique. Mais une des spécificités de la méthode structurale de Wimmer, qui la distingue de Guéroult, réside dans la recherche d'invariants, d'invariants de l'histoire de la philosophie, invariants qui n'apparaissent que sous la condition de sa mise en regard avec l'histoire des sciences. Les six classes que Wimmer distingue à partir de nécessité-contingence sont ces invariants. Ces classes de systèmes ne sont pas seulement des classes de faits, abstraites de l'analyse d'analogies historiques, mais des structures de droit ancrées dans la phénoménologie de la perception et de la sémiologie. La vérité se dit fondamentalement et irréductiblement de différentes manières. Il y a différentes manières de communiquer la perception et donc différentes manières par lesquelles deux locuteurs peuvent s'accorder sur la détermination de la valeur de vérité des énoncés élémentaires du langage. Il y a donc différentes manières de s'accorder sur la détermination de la référence des termes présents dans les énoncés élémentaires. En ce sens, le vrai se dit de différentes manières. Mais ces manières ne sont pas d'égale valeur, car elles s'inscrivent dans un rapport indirect mais réel à la science d'une époque. Il y a, en second lieu, un rapport évident, bien qu'implicite, entre la position de Wimmer au sujet des relations entre science et philosophie et certains thèmes propres à la tradition de l'épistémologie française, ou si l'on préfère, à la tradition française de l'histoire des sciences. Ce rapport apparaît de manière frappante dans certaines affirmations de Georges Canguilhem à l'occasion de son entretien avec Alain Badiou en 1965. Canguilhem décrit la philosophie comme une tentative d'unification, de totalisation cohérente du réel, intégrant et renfermant la science de son époque. Il souligne la nécessité d'une philosophie au sens systématique du terme pour satisfaire notre aspiration à la totalité. De plus, il reconnaît ouvertement le caractère pluriel des telles tentatives. Je cite donc de ce texte « Science et philosophie ». S'il est vrai que la philosophie est la totalisation de l'expérience d'une époque, dans la mesure où cette expérience contient des modes tels que la science ou l'art ou la technique, l'intégration à un moment donné d'une mathématique comme celle d'Hilbert, d'une physique comme celle d'Einstein, d'une peinture comme celle de Picasso. L'intégration de ces modes d'expérience, précisément parce que certains de ces modes comportent le progrès, ne peut jamais s'opérer de la même manière, même si l'intention de totalisation reste identique. Et par conséquent, il n'y a pas d'homogénéité philosophique, c'est-à-dire d'homogénéité de ces tentatives d'intégration sous le rapport de leur procédure, de leur style et de leur conclusion. Ce qui est propre à Wimmer, c'est que, bien qu'avec une prudence extrême, il n'abdique pas devant la notion de vérité philosophique, contrairement à Canguilhem, et continue de s'interroger sur cette question difficile de l'adéquation d'un système philosophique avec la science d'une époque. Sa réflexion dépend d'une conception historiquement et théoriquement motivée des rapports entre science et philosophie. Avant d'y revenir brièvement, je voudrais souligner comment cette conception rompt doublement avec l'idée de philosophie scientifique issue des Lumières. En premier lieu, elle rompt avec l'image d'une science unique à la démarche cumulative. Les mathématiques, d'abord et avant tout, sont multiples, selon Wimmer. Les vérités mathématiques présupposent un rapport de subsomption entre objet et structure, objet et construction, par le biais de démonstrations. Toutefois, la légitimité de ces constructions et de ces structures, dont l'occasion de définition ou de découverte est aussi liée à la rencontre de la pensée pure avec la nature, est souvent soumise à une décision philosophique du Wimmer. Les querelles sur les fondements des mathématiques en font foi, bien que, comme le dit encore Wimmer dans l'article « La substance », je cite, « La communauté des savants a tôt fait à chaque époque de réduire au choix d'un style la marge de l'arbitraire pour sauver l'unité des mathématiques. » Les théories physiques, ensuite, sont essentiellement multiples, partielles et précaires, bien qu'il faille reconnaître le progrès cumulatif des lois à des échelles successives d'approximation. En second lieu, cette conception de vie humaine de la pluralité philosophique rompt avec une certaine idée du rôle de la philosophie. Contre l'idéal scientifique de la philosophie, la valeur d'une philosophie systématique ne doit pas être recherchée dans le rêve impossible d'une méthode recueillant le consentement universel, mais également contre le point de vue de Canguilhem, elle ne peut pas être réduite à la satisfaction du besoin d'unité et de totalité propre à la raison. Comme Wimal écrit explicitement dans son dernier livre sur les mathématiques pythagoriciennes et platoniciennes, la valeur philosophique d'un système de pensée réside dans sa capacité d'organiser, de généraliser et même de préfigurer des solutions à des questions auxquelles la science, à un moment donné, ne répond que partiellement lorsqu'elle y répond. Loin d'être confinée à un passé où la science, où science et philosophie n'étaient pas encore réellement distinguées, cette valeur possible de l'enquête philosophique, lorsqu'elle est menée de manière systématique et cohérente, est reconnue comme une constante. Elle s'enracine chez Wimal dans l'analyse de ce qui oppose la science et la philosophie au mythe. Analyse décrite au chapitre 3 de What are Philosophical Systems. Alors, je ne peux, faute de temps, entrer dans les détails, mais je rappellerai comment, pour Wimal, la science et la philosophie posent toutes deux la vérité comme objectif de leur explication. Là où les mythes visent la persuasion et l'utilité. Elles visent la vérité, puisque du moment où elles naissent avec l'invention de la méthode axiomatique, elles délimitent strictement le domaine des concepts et des objets utilisés et des règles de construction, des définitions et de démonstrations admises, là où l'explication mythique se développe selon la méthode de l'assemblage et du bricolage. Réunies par ces caractéristiques liées à leur origine commune, science et philosophie ne peuvent pas toutefois être identifiées. La science, dit Wimal, peut normalement se contenter de définitions implicites et contextuelles des objets et des concepts qu'elle utilise. La philosophie requiert que l'on donne une interprétation matérielle des axiomes. En ce sens, la philosophie métamorphose l'universalité du mythe, sa capacité à rendre compte de manière totalisante de l'expérience, tout en la soumettant au langage de la raison avec ses exigences de systématicité et de cohérence. La science peut user éclectiquement des méthodes de construction et de déduction, étant donné la possibilité d'une interprétation formelle de ses objets et de ses concepts. Par contre, l'enquête éminemment ontologique menée par la philosophie, met en doute la validité des principes logiques et des méthodes de la science dès que l'interprétation ontologique qu'il présuppose est en désaccord avec le cadre ontologique choisi. Pardon. Le philosophe et le scientifique sont, tous deux, intimement contraints par la recherche de la vérité. Toutefois, le scientifique ne thématise pas, sinon marginalement et ponctuellement, la question des rapports entre réalité et apparence. Au contraire, chaque choix ontologique d'un principe organisateur unique pour rendre compte du réel doit réduire les autres, quelle que soit leur plausibilité du point de vue du sens commun, à des pures apparences. Donc, les systèmes philosophiques sont en éternelle compétition dans leur tentative de fixer les frontières entre apparence et réalité. Ces tentatives de démarcation entre apparence et réalité, ces explications totalisantes du réel, ont toutefois une valeur irremplaçable pour la science. En premier lieu, puisque la physique introduit des entités inaccessibles à la perception, mais indispensables pour ces explications, la pensée philosophique est essentielle en cela qu'elle préfigure, explore et induit ces déplacements entre réalité et apparence nécessaires au progrès des sciences, de la science de la nature. Puisque d'ailleurs au progrès de celle-ci est intimement lié le progrès des mathématiques, c'est la science tout entière que l'enquête systématique et cohérente sous les frontières entre apparence et réalité propre à la philosophie offre un élément essentiel de progrès. Pour cette raison, une science qui n'est pas fécondée par la philosophie risque de devenir dogmatique et stérile. En second lieu, la production des systèmes philosophiques est essentielle pour la science car elle explore la possibilité de son unité par une libre enquête rationnelle. une unité que la science ne peut atteindre sinon de manière partielle et toujours provisoire, mais qui est indispensable à son progrès au moins autant que sa spécialisation. Wieman part du principe que la connaissance scientifique est constitutionnellement incomplète. De là, il suit que l'unité de la science n'est pas une conséquence anodine du développement de la science et de ses méthodes. Elle est au contraire le produit d'une recherche dont les principes inspirateurs sont de nature philosophique. Le problème de l'unité de la science présuppose le choix d'une forme de l'égalité de la nature à laquelle subordonner les autres. En ce sens, il présuppose un principe organisateur général dont la nature philosophique se révèle par sa valeur normative et heuristique et par le fait qu'il ne peut pas être rejeté rationnellement que sur la base de sa fécondité face à la totalité de la science. Enfin, il y a une motivation plus politique, je veux dire par là qui concerne au sens propre le destin de la polis, que j'énoncerai ainsi. L'avènement de la philosophie et de la science, de même que leur existence dans le futur, n'ont rien d'inéluctable et leur destin, leur existence même, sont étroitement liés. Rien ne nous garantit que la pratique de la science reste conforme dans le futur, dit Wieman, à l'impératif moral qui est la source de son progrès. Élaborer la théorie la plus organiquement liée, qui embrasse les phénomènes connus, en sorte que ces prévisions nouvelles soient si précises qu'elles puissent l'être le plus facilement falsifiables. Le fanatisme qui nous est naturel, dit Wieman, menace constamment la survie de la science en idolâtrant ses images et en réintroduisant par là l'explication mythique au sein de la pratique scientifique. Rien ne nous garantit que les conditions qui permettent à une libre philosophie de se développer perdureront dans le futur. Il y a, dit Wieman, des civilisations sans philosophie, des civilisations où la philosophie n'a pas pu et ne pourra pas s'affranchir d'une certaine soumission aux mœurs, aux lois et à l'utilité sociale. La philosophie est née et se développe par et dans une révolution dans l'usage des signes, révolution qui rompt avec les idéologies des églises et les besoins des États constitués. C'est des mots de Wieman. Pourtant, comme il le souligne, avant cette révolution, d'autres systèmes de croyances et de pratiques, les mythes et leurs rites, répondaient aux mêmes besoins qui alimentent la libre enquête philosophique. Les mythes fournissent une vision totalisante du monde qui, loin d'être perçue comme une apparence face à la vision du monde qui nous livre la perception, rivalise avec celle-ci, ou plutôt la supplante en l'interprétant et en lui assignant sa place dans un environnement totalement nouveau. Les mythes n'ont jamais eu pour rôle de relâcher la prise de la raison sur la réalité. Au contraire, comme pour la philosophie, il s'agit de renforcer, compléter et organiser le code de la raison pour la survie de la communauté. La vraie différence, c'est que les mythes, par leur structure et leur mode de développement, accomplissent cette tâche de manière conservatrice, là où la libre philosophie est capable, dit Wieman, d'innovation et de révolution. Alors, se résigner à abandonner l'idée de la philosophie comme système, renoncer à soumettre à la libre enquête rationnelle ce besoin de vision totalisante propre à notre espèce, cela reviendrait à rouvrir la porte au mythe. Loin d'être les souvenirs d'une période révolue, les mythes guettent la science et la société. Les acquis de la révolution philosophique, comme ceux de n'importe quelle révolution, n'étant jamais définitifs, le pouvoir conservateur du mythe est toujours une alternative viable pour, comme dit Wieman, les idéologies des États, des Églises et des pouvoirs constitués. Et cela, je le répète, non seulement dans le domaine de la société, mais aussi de la science. Alors, assumer le besoin philosophique d'une explication systématique, totalisante et cohérente, malgré l'apparence désuète et antimoderne d'un tel projet, malgré l'effort que cela comporte, étant donné la complexité de la science de notre époque, malgré surtout la conscience de la partialité intrinsèque des solutions envisageables, assumer cela signifie travailler pour que les générations futures puissent à nouveau cultiver la philosophie telle qu'elle a été avant les préoccupations modernistes des hommes du XVIIIe siècle. La reconstruction que je viens de proposer du point de vue de Wimin sur les rapports de la science et de la philosophie, donne des éléments de réponse à la question « La philosophie doit-elle être systématique ?» Cependant, la question « Peut-elle être systématique ?» demeure ouverte. La séparation entre science et philosophie n'est-elle pas consacrée ? Et cette tâche n'est-elle pas vouée d'emblée à l'échec ? On devrait philosopher comme au temps de Descartes et Leibniz, mais nous ne pouvons plus le faire, et cela depuis longtemps, puisque les Lumières ont séparé science et philosophie. Il y a, du point de vue des philosophes, bien des raisons d'acquiescer à un tel diagnostic. On a toutefois le droit de se demander si ce sentiment des professionnels de la philosophie ne se heurte pas à la réalité de la science. Partons d'un constat. C'est toujours un sujet d'étonnement de constater la profonde interpénétration de la science et de la philosophie dans la pratique scientifique des grands hommes des sciences du XIXe et du début du XXe siècle. C'est un peu comme si les hommes des sciences, alors que la plupart des philosophes abdiquent devant toute prétention systématique quant à la science, avaient cherché à combler ce vide en livrant leur propre philosophie. Je le répète, songeons à Cantor, Helmholtz, Riemann, Poincaré, Mach, Duhem, Einstein, Brauer, Weil ou Gödel. On ne peut nier le rôle au moins heuristique de leur propre Weltanschauung sur leur découverte scientifique. Bien sûr, une Weltanschauung n'est pas une philosophie. Et la méfiance qu'une certaine philosophie des sciences a cultivée face aux philosophies des scientifiques nous prévient de procéder précipitamment à une telle identification. Mais a-t-on jamais pris au sérieux vraiment ces philosophies des scientifiques ? Les a-t-on vraiment examinées, non pas tellement dans l'enchaînement peut-être maladroit de leurs thèses, mais dans leur liaison avec la production scientifique de ces savants philosophes ? Peut-être il n'y a plus aujourd'hui de savoir universel, mais il y en avait encore dans le siècle qui vient de s'achever. Or, cette ouverture du champ de la recherche, cette capacité à intervenir dans des domaines différents, ne semble pas dépourvue de liens profonds avec l'idée de l'unité de la science. Alors, avec cette idée de l'unité de la science, produite par un principe directeur, n'aurions-nous pas affaire, malgré les apparences, à quelque chose qui soit du ressort de la philosophie, ou du moins qui lui soit étroitement lié? Je ne suis pas en train de dire que l'on peut philosopher comme au temps de Descartes et Leibniz, car preuve en serré que les scientifiques l'ont toujours fait. Je ne partage pas l'opinion de Canguilhem qui, face à la question « Les sciences ont-elles besoin de la philosophie ?» s'exprimait ainsi toujours dans ce même entretien avec Alain Badiou. Il disait « Je répondrai que les sciences ont besoin de la philosophie et qu'elles n'ont nullement besoin de la philosophie, si par philosophie on entend la sécrétion spécifique des philosophes. Aucune science ne peut se passer de la philosophie, et la preuve en est que désormais ce sont les sciences elles-mêmes qui élaborent leur propre philosophie. Elles font elles-mêmes la philosophie qui leur est nécessaire, c'est-à-dire la critique de leur fondement. Je ne partage pas cette opinion pour au moins deux raisons. D'une part, à cause de la spécialisation même de la science, il n'y a plus de savoir universel. Et donc une telle réflexion épistémologique, si elle existe, ne peut être que régionale. Et pour cette raison, elle ne satisfait pas du tout l'idéal systématique de la philosophie tel que nous venons de l'évoquer. D'autre part, puisque ce qui caractérise la philosophie occidentale, comme Wimin l'a souvent rappelé, c'est la tentative de répondre conjointement et de manière cohérente aux deux questions de la connaissance et de la morale, du labyrinthe du continu et du labyrinthe de la liberté, du « que puis-je connaître » et du « que dois-je faire ». On ne peut rester qu'insatisfait face, donc, aux remarques d'un Poincaré ou de Einstein sur la morale. Il ne s'agit pas alors tellement de constater comment, dans le passé le plus proche, ces deux champs de la culture, science et philosophie, ont conservé une parenté étroite, mais plutôt de comprendre si la lecture des écrits épistémologiques des savants philosophes du XIXe et du XXe siècle peut nous éclairer sur l'état actuel de la science, sur ses difficultés et ses tendances, et nous aider dans le choix d'une certaine perspective, d'un certain mode possible de dire le vrai. Il s'agit alors de prendre au sérieux cette idée que Wimin a plusieurs fois exprimée, selon laquelle la classification des systèmes philosophiques est un exercice préalable à la construction d'un système, et donc constater que cette double mise en regard par rapport à l'histoire des sciences et par rapport à l'histoire de la philosophie est ce qui nous manque le plus cruellement pour ces ébauches de systèmes proposées par les savants. Il s'agit de comprendre comment le marché des ismes et des étiquettes que les philosophes ne cessent d'inventer se rapporte et se simplifie face aux invariants que la réflexion épistémologique des scientifiques nous indique, peut-être aujourd'hui, avec plus de clarté. Peut-être cela le fil à reprendre pour préparer éventuellement le matériel à partir duquel quelqu'un dans le futur pourra reprendre le flambeau d'une philosophie systématique. Je voudrais, dans le peu de temps qui me reste, illustrer par un exemple le genre de tâche qui nous incombe. C'est à partir donc du travail épistémologique de Poincaré que je voudrais indiquer le genre d'écueil et des difficultés que présente cet objectif. Le premier écueil, c'est de bien comprendre que Poincaré n'est pas un philosophe professionnel et que donc le manque de clarté que l'on peut reprocher à certaines de ses formulations, l'apparente incohérence ou l'obscurité de certains passages, ne peut être levé qu'à partir de la recherche de ce que ces remarques expriment par rapport à l'ensemble de son propre travail scientifique. Le deuxième écueil, c'est de résister à la tentation de dépiécer et fragmenter les considérations épistémologiques de Poincaré, de classer d'emblée ses analyses sous les ismes du marché philosophique, constructivisme, conventionnalisme, réalisme des relations, pragmatisme. Il faut prendre au sérieux, pour son épistémologie, ce que lui-même a dit à propos de son travail scientifique dans la fameuse analyse de travaux d'Henri Poincaré par lui-même. Après avoir présenté l'organisation en rubrique de ses travaux, qui concerne les équations différentielles, la théorie générale des fonctions, l'algèbre, l'arithmétique, la topologie, l'optique, l'astronomie, les théories cosmogoniques, la thermodynamique, la théorie de l'électricité, l'électromagnétisme, la théorie des quantas, les calculs des probabilités, et j'en oublie, il affirme de ne pas avoir poursuivi tous ses buts indépendamment les uns des autres, et il souligne l'existence de connexions intimes entre ses travaux. L'épistémologie régionale est impuissante devant une pensée qui s'est exprimée avec à la fois tant de largeur et d'unité. Alors, lorsqu'on essaye d'appliquer ces préceptes, et ce n'est pas facile, la mise en regard philosophique des remarques épistémologiques de Poincaré se fait tout naturellement. Je n'ai pas le temps vraiment de justifier mes affirmations, mais permettez-moi de présenter quelques-unes de mes conclusions sur un travail d'analyse d'ailleurs collectif que nous menons à Aix avec Alain Michel, Éric Auduro et d'autres. Alors, plus précisément, il s'agirait de voir comment, lorsqu'on situe la doctrine de l'espace de Poincaré dans le contexte de sa théorie de la connaissance, et lorsqu'on fait correctement la part dans la science moderne, entre ce qui relève du progrès cumulatif et de ce qui dépend de la perspective philosophique inhérente au travail scientifique, on peut comprendre la spécificité et l'originalité du point de vue de ce savant philosophe. Alors, d'abord donc, vraiment brièvement, sous la doctrine de la connaissance de Poincaré. L'épistémologie de Poincaré s'organise autour de trois notions. Intuition, construction et convention. Comprendre sa théorie de la connaissance, c'est comprendre les liens entre ces notions et leurs fonctions respectives dans la formation et la justification de la pensée scientifique. D'une part, donc, il y a les deux formes d'intuition pure du sujet connaissant. Celle que Poincaré appelle l'intuition de la répétition, qui n'est rien d'autre que l'intuition de l'infini potentiel, commune à l'arithmétique, à l'algèbre, à l'analyse, et celle que Poincaré appelle, à partir d'un texte des dernières pensées, l'intuition topologique. Toutes deux expriment la capacité de l'esprit d'apercevoir l'invariance dans la répétition d'un acte ou dans le changement de dimension de certaines propriétés ou relations. Toutes deux permettent de rapprocher, comme le dit Poincaré, le semblable au semblable, en donnant ainsi un fondement mathématique au concept d'analogie. D'autre part, il y a la capacité de l'esprit à inventer des structures symboliques et donc construire, donc la construction, et donc construire sans cesse, librement et de manière combinatoire des nouvelles à partir de celles déjà existantes. Beaucoup de conventions dans l'épistémologie de Poincaré, ce sont des constructions symboliques exprimées dans le langage des mathématiques et qui peuvent être utilisées pour déterminer l'expérience, pour combler le vide entre sensation et entendement, pour pallier la faiblesse de nos sensations afin de les organiser de manière cohérente en vue de la connaissance. Toutefois, et c'est le point central, pas toutes les constructions symboliques inventées par l'esprit ne peuvent se transformer en conventions utiles. Certaines peuvent même être dangereuses, voire par exemple la théorie axiomatique des ensembles avec son usage de l'infini en acte, en faisant égarer l'entendement dans des paradoxes sans solution. Les constructions symboliques doivent se conformer à nos intuitions pures et en premier lieu à l'intuition de la répétition pour pouvoir être utiles, cohérentes et fécondes. Comme l'avait déjà suggéré Brunswick, d'ailleurs, dans son écrit sur l'œuvre de Poincaré, écrit remarquable, les conventions chez Poincaré sont toutes ancrées dans la structure du sujet connaissant. Leur utilité épistémologique est en un sens a priori et non pas a posteriori, car cette utilité réside justement dans le lien qu'elles établissent entre la structure d'un jeu sans temps et les informations que ce jeu reçoit du milieu dans lequel il évolue à travers ses sensations. Les conventions poincariennes ne se réduisent donc nullement à des décisions linguistiques inspirées par un principe pragmatique du succès. Le libre jeu entre intuition, construction et convention, une fois soumis aux règles d'une pensée critique, attentive aux limites de la connaissance possible, assure donc la fondation de la connaissance dans le sujet. Cette sorte de doctrine des facultés guide l'épistémologie de Poincaré, et ses conséquences sont particulièrement frappantes sur sa doctrine de l'espace et sur les relations entre cette dernière et le principe de relativité tel que Poincaré l'entend. Alors, brièvement encore sur la conception de l'espace. On a souvent reproché à Poincaré, et c'est le cas de Vimin, d'avoir défendu avec son conventionnalisme géométrique une conception philosophique désuète, basée sur l'opposition entre matière et forme de la connaissance. La doctrine du conventionnalisme imposerait la restriction des géométries à celle à courbure constante, et cette restriction aurait été balayée par le progrès de la science. En particulier, la destruction de l'opposition espace-temps et matière imposerait la courbure variable de l'espace propre à la relativité générale einsteinienne. Dans cette façon de voir, on néglige trois aspects de la pensée de Poincaré directement liés à la notion de limite de la connaissance, telle qu'elle est déterminée par les rapports entre intuition, construction et convention. En premier lieu, Poincaré discute bien des géométries riemanniennes à courbure variable, mais il les considère comme des géométries analytiques, c'est ça le mot qu'il utilise. Des constructions symbolique, intéressante du point de vue mathématique, mais épistémologiquement inadéquate à rendre le service que l'on attend d'une géométrie, c'est-à-dire décrire dans le langage intersubjectif des mathématiques ce qu'est le mouvement, en respectant au plus près la genèse de cette notion dans notre expérience, et donc fixer la notion de distance de manière à pouvoir mesurer et comparer les grandeurs extensives. En deuxième lieu, Poincaré rejette l'idée d'espace physique. Être, c'est pour lui être connaissable, et nous ne pouvons avoir aucune connaissance ni de la structure de l'univers, ni de la totalité des corps qui le structurent. Il y a, pour Poincaré, l'espace représentatif, l'espace dans lequel nous rangeons nos représentations de phénomènes extérieurs. Il y a, pour Poincaré, l'espace, un espace géométrique, être mathématique défini par l'ensemble des conventions adoptées pour décrire le mouvement des corps rigides et qui n'est rien d'autre qu'un résumé idéalisé des lois suivant lesquelles les images de nos représentations se succèdent. Mais il n'y a pas l'espace physique. C'est-à-dire, il n'y a pas un être théâtre des événements physiques dont la structure pourrait être connue par l'observation. Mais s'il n'y a pas d'espace physique, c'est que le mouvement physique n'est rien en soi et qu'il ne peut être identifié ni au mouvement dans l'espace représentatif, ni au mouvement dans l'espace géométrique. Les changements de position, j'ai presque terminé, les changements de position dans l'espace représentatif et la capacité de localisation que leur organisation rend possible sont pour nous associés de manière essentielle à une classe d'équivalence de séries de sensations musculaires capables de corriger des changements extérieurs. Par conséquent, on peut bien sûr imaginer être à la place de la Terre et éprouver des sensations musculaires dans un mouvement de rotation autour du Soleil, mais de cela, on ne tirera pas une description physique du mouvement. Les différents groupes de déplacement qui décrivent un espace géométrique permettent de caractériser la notion de distance par celle de plus court chemin entre deux points, et la notion de déplacement a son origine dans celle de changement de position de l'espace représentatif. Mais si l'on voulait se demander quelle est la géométrie que nous devons utiliser pour localiser et décrire le mouvement des corps physiques autour de nous, nous nous trouverions devant le paradoxe insoluble de devoir d'abord fixer ce que nous devons appeler mouvement. Nous sommes les spectateurs de phénomènes différents, de variations de grandeur, parmi lesquels, contrairement à ce qui se passe dans l'espace représentatif, nous n'avons aucune manière de faire la différence entre un changement d'état et un changement de position. Nous ne pouvons pas appliquer à l'univers la stratégie que nous appliquons à notre milieu. Nous ne pouvons pas chercher des mouvements corrélatifs de notre corps capables de compenser le mouvement des corps célestes. Dans ces conditions, l'opposition essentielle pour la physique entre mouvement et changement d'état est impossible, et si ce n'est par une décision, par une convention, qui décide par exemple de l'emploi du mètre et du thermomètre, par un cadre imposé à la nature qui fixe à la fois la notion de distance et ses variations. Mieux vaut alors choisir le cadre le plus adapté à nos capacités du sujet connaissant. Mieux vaut choisir le cadre auquel nous sommes le plus accoutumés, puisque nous savons que la notion de mouvement n'est que corrélative et qu'aucun mouvement absolu, ni par rapport à l'espace, ni par rapport à l'éther, ni par rapport à la totalité des corps de l'univers, ne pourra jamais être aperçu par nous à cause de la nature toute relative de la notion de mouvement fondée sur celle de compensation. Tel est le troisième aspect que la critique de la nature périmée de la conception de l'espace chez Poincaré néglige. Cette conception de l'espace, à cause du rapport de genèse entre l'espace représentatif et l'espace géométrique, implique un principe de relativité bien plus fort que le principe usuel. Le principe de relativité du mouvement se fonde, chez Poincaré, sur un principe de relativité de l'espace qui pose au centre la question du rapport entre l'objet à mesurer et l'étalon de mesure. Poincaré s'exprime très clairement à ses propos dans Science et méthode, je passe sous la citation, mais enfin, ce que je veux souligner, c'est que ce principe de relativité de l'espace conduit, c'est ça le point, Poincaré a affirmé bien avant la relativité générale que puisque les systèmes de coordonnées ne peuvent avoir aucune signification physique, il n'y a aucune différence de nature. Aucune différence intrinsèque entre mouvement accéléré et mouvement uniforme. Il le conduit aussi à donner une interprétation originale de la mécanique nouvelle issue du travail de Lorentz. Einstein, qui fait de la vitesse de la lumière le nouvel absolu auquel les lois de la nature doivent se conformer, Poincaré répond idéalement que rien nous oblige à accepter un tel absolu. Déjà en 1904, il suggérait en effet de bouleverser la nouvelle mécanique et d'éviter la contraction de Lorentz en faisant varier d'une façon correspondante la vitesse de la lumière, dont la constance a pour seul garant, disait-il, le principe de la raison suffisante. Alors, je termine sur ce point. Si j'évoquais cette question complexe de l'espace chez Poincaré, c'était dans le double but d'indiquer comment le lien intime qui gouverne ces conceptions de l'analyse, de la géométrie et de la physique doit être nécessairement pris en compte lorsqu'on envisage de comprendre son épistémologie. et de souligner aussi comment ces affirmations épistémologiques semblent, elles aussi, soumises à un principe unificateur, basé sur la notion de limite de la connaissance, telle qu'elle ressort du jeu entre intuition, construction et convention. Il s'agit bien, me semble-t-il, d'une philosophie de scientifique, mais d'une philosophie qui s'approche bien plus de ce qu'on est disposé à croire d'une philosophie systématique. Canguilhem, dans le même entretien que je citais tout à l'heure, distinguait une histoire des sciences de tradition allemande et anglaise faite par les scientifiques de l'histoire des sciences de tradition française faite surtout par les philosophes. La première est avant tout, disait-il, une histoire érudite des vérités. La deuxième est plutôt une histoire des erreurs. J'aurais envie d'associer cette belle formule à l'approche de Wiemann. J'aimerais dire que l'histoire des sciences dont nous avons besoin, c'est aussi et surtout une histoire de ces voies qui sont devenues des chemins de traverse, aujourd'hui abandonnés, mais dont la connaissance est essentielle au développement de la science et de la philosophie. Il y a là, je crois, tout un vaste programme qui s'ouvre aux philosophes, préliminaire à toute réponse à la question « La philosophie peut-elle encore être systématique ?»
Je vous remercie, Gabriella, pour cet exposé qui est tellement riche et substantiel qu'il faudrait passer... 5 ou 6 soirées, les discuter, parce que vous nous avez fourni l'équivalent d'au moins 5 ou 6 conférences. Enfin, je pense, rien que ce que vous avez dit à propos de Poincaré, bon, on aurait des commentaires et des discussions. Je suis profondément admiratif à l'égard de ce que vous avez réussi à tirer de Poincaré. Mais alors, l'exemple de Poincaré pose justement un problème, parce que vous avez raison, il y a une systématicité de Poincaré qui est remarquable, mais elle est rendue possible par le fait que Poincaré est un des derniers savants universels, et c'est un scientifique. Donc, incidemment, vous posez un peu la question de savoir si il n'y aurait pas, en tout et pour tout, à présent, comme possibilité pour la philosophie systématique, qu'elle soit faite par des scientifiques, à supposer que l'édit scientifique puisse exister. Et il n'est pas du tout sûr qu'il le puisse encore. Enfin bon, il y a une multitude de problèmes qu'on pourrait se poser. Mais cela dit, c'est tout à fait vrai qu'on peut bien sûr attribuer à Poincaré une philosophie, et une philosophie qui n'est pas du tout une philosophie d'amateur, comme on a eu tendance pendant longtemps à traiter, c'est vrai, en France, ce qu'on appelait... à l'époque d'Althusser, la philosophie spontanée des scientifiques, donc, était considérée avec quelque chose d'assez voisin du mépris. Vous avez raison d'estimer que dans le cas de quelqu'un comme Poincaré, il est tout à fait impossible de considérer les choses de cette manière, mais il n'est pas le seul. Alors j'ai beaucoup apprécié aussi ce que vous avez dit, enfin la confrontation à laquelle vous vous êtes livré à propos des positions respectives de Wiemann et de Canguilhem, hein, qui sont effectivement très différentes. Et là... Cette confrontation permet de soulever certains problèmes qui sont des problèmes absolument essentiels. Alors il y a une quantité de choses dont je pourrais vous parler, dont j'aimerais vous parler. J'ai trouvé très remarquable l'analyse que vous avez faite de la réaction des Lumières, hein, donc l'espèce de parti pris antisystématique qui est adopté par les Lumières et qui correspond au fond à l'idée que l'époque de la science expérimentale devrait être aussi celle de la philosophie expérimentale. C'est tout à fait évident chez la plupart d'entre eux, et ça veut dire plus de système. Il faut que les philosophes acceptent de faire jouer à l'expérience dans la construction de leur propre philosophie un rôle comparable à celui que la science lui fait jouer. Alors il y a la question du pluralisme, évidemment, qui se pose de façon presque violente, hein, c'est-à-dire il y a une espèce de, vous avez raison, de refus catégorique d'accepter le pluralisme, surtout dans la mesure où on a l'impression qu'il est intrinsèque, hein, c'est-à-dire qu'il y a un risque sérieux pour que le pluralisme, dans le cas des sciences, soit accidentel et provisoire, alors que dans le cas de la philosophie, il donne l'impression d'être définitif, c'est-à-dire jamais on n'arrive à décider aucune question. Alors il y a la question de la décidabilité, hein, que vous n'avez pas évoqué directement, mais qui est évidemment liée de façon tout à fait directe à la question du pluralisme. Vous avez évoqué peut-être un peu brièvement la façon dont la situation a changé aujourd'hui, hein, c'est-à-dire on insiste aujourd'hui tellement sur... on insiste au contraire sur le fait que la pluralité dans le cas des sciences n'est probablement pas moins grande que dans le cas de la philosophie. Un bon nombre de... la plupart des philosophies des sciences contemporaines ont insisté de façon extraordinaire sur cet aspect, ce qui a évidemment provoqué un rapprochement, justifié ou non, un rapprochement important entre le cas de la philosophie et celui des sciences. Mais évidemment pas au profit d'une réintroduction de la préoccupation pour la systématicité. Ça va sans dire. On peut se demander si la référence à la science peut encore être utilisée, comme elle l'a été autrefois, comme un appel à la recherche de la systématicité pour la philosophie. La science telle qu'elle est comprise la plupart du temps aujourd'hui par les épistémologues, plus encore par les sociologues des sciences, lui donne plutôt l'impression du contraire. Alors est-ce que ça rend justice à la science? Ça n'est pas certain. Est-ce que c'est bon pour la philosophie qui, peut donner l'impression de retrouver une espèce de crédit qu'elle avait plus ou moins perdu, parce qu'on en revient en gros à l'idée que non seulement le pluralisme, mais même l'anarchisme sont la situation normale. Donc c'est la situation dans les sciences. Pourquoi est-ce que ça ne serait pas, a fortiori, la situation dans la philosophie? Il y a un point sur lequel je serais un peu en désaccord avec vous, c'est la relation de Wittmann à la notion de vérité philosophique. Vous dites, c'est exact, qu'il utilise cette notion et qu'il tient de façon essentielle à maintenir l'idée d'une référence constitutive de la philosophie à la vérité. Mais en même temps, il dit dans What are philosophical systems que le pluralisme irréductible, c'est-à-dire l'impossibilité de choisir à l'aide de critères véritablement rationnels entre les différents systèmes philosophiques qui s'opposent, rend tout à fait problématique l'usage, l'utilisation même de la notion de vérité à propos de la philosophie. Il dit même, si je me souviens bien, que il choisit d'accepter l'idée qu'il vaut mieux renoncer à appliquer la notion de vérité à la philosophie, tout au moins, ajoute-t-il, dans son sens usuel.
Exactement.
Alors, je dois dire que malheureusement, j'ai toujours pas compris à quel sens inusuel, lui et Granger, d'ailleurs, qui fait des suggestions du même genre, ils pensent exactement quand ils maintiennent, au fond, cette idée que, certes, au sens ordinaire, du terme, on ne peut pas utiliser la notion de vérité à propos des constructions des philosophes, mais il y aurait peut-être un autre sens auquel on peut le faire. Alors c'est toujours le même problème, si vous voulez, il y a des gens qui parlent de vérité littéraire en suggérant par là que certes c'est bien la vérité, mais quand même c'est la vérité littéraire, alors c'est plus tout à fait, ou même pas du tout peut-être la vérité. Et puis la vérité philosophique pose le même problème, parce que quand on parle de vérité philosophique, on dira certes c'est pas la vérité des scientifiques, qui est d'ailleurs pas très intéressante, etc. Une vérité qui est d'un type beaucoup plus profond, beaucoup plus intéressant. Enfin, donc je pense que, pardonnez-moi de me laisser aller un peu à ma tendance à l'ironie, mais je suis tout à fait sérieux. Je veux dire, il y a un vrai problème. Je pense que la question de la relation de Wittmann à la vérité en ce qui concerne la philosophie et reste une question fondamentale. Alors il y a une quantité d'autres questions très intéressantes que vous avez soulevées et discutées de façon extrêmement originale. Vous avez par exemple insisté avec raison sur ce qui, aux yeux de Wittmann, ce qu'il y a d'accidentel et de contingent, à la fois dans l'avènement de la philosophie et dans l'avènement de la science, et sur... une question que vous avez évoquée quand vous avez parlé de la possibilité et même du risque que, à partir d'un certain moment, la science ne se conforme plus à l'idéal moral qui a été la condition de son progrès. Alors, je crois que ça, c'est une idée tout à fait importante pour Wittmann. Enfin, quiconque l'a connue et connaît le degré de pessimisme dont il était capable à certains moments peut donner un sens tout à fait concret à ça en ce qui le concerne. C'est évidemment quelque chose qui le préoccupait énormément et même peut-être le hantait. Alors oui, dernière remarque, bien sûr, je crois que de façon tout à fait générale, j'ai commencé par parler de Poincaré, mais on pourrait généraliser. Vous avez entièrement raison de penser que les les philosophies des sciences, des scientifiques, de manière générale, n'ont pas été prises suffisamment au sérieux, en particulier par l'épistémologie française. Ce n'est pas que l'épistémologie anglo-saxonne ou allemande soit sur ce point-là irréprochable, mais là, il faut reconnaître que nous avons eu un problème. Il y a eu un problème tout à fait sérieux et par moments un peu douloureux. Je dis ça parce que, ayant moi-même beaucoup, souvent rompu des lances pour défendre des gens comme Mach, Hertz, Boltzmann, Gödel et pas mal d'autres. Vous pensez que je suis tout prêt à abonder dans votre sens et que j'ai eu un plaisir et un réconfort particulier à vous entendre sur ce point. Bon, j'ai déjà beaucoup trop parlé. Je pense qu'il y a des gens dans l'assistance qui auraient aussi des questions à vous poser, mais peut-être vous souhaitez réagir un peu à ce que je vous ai dit.
Oh non, c'est juste, pour aller dans votre sens, j'avais préparé une... Je trouve que c'est une très belle citation d'un débat dans le colloque Rationalité aujourd'hui. Donc, Vie humaine qui discute avec Claude Panaccio et qui dit, Panaccio, et qui dit cela, j'ai vraiment envie de le dire parce que je trouve très, très, très frappant ce pessimisme, justement. Il dit, imaginez la situation suivante qui peut un jour arriver en Occident, que les gens disent, il y en a assez de la science, soit parce qu'elle coûte trop cher intellectuellement, soit parce qu'elle est trop fatigante. Nous pourrions nous arrêter où nous sommes. Le progrès scientifique s'arrêterait. Nous savons qu'il y a des trous, par exemple en chimie, en physique, il y a des morceaux de théorie qui ne marchent pas, eh bien on peut avoir des hypothèses ad hoc qui serviraient éternellement et on interdirait aux gens éventuellement de s'occuper de cela. Alors, ce que j'ai dit par morale, donc la science ne progresse que parce qu'il y a effectivement une exigence morale. Hein. Ce que je dis par morale, c'est que la continuation de la science n'est pas du tout le résultat d'un mécanisme sociologique qui va de soi. Nous pouvons revenir à des âges sombres. Les menaces ont existé. Et par conséquent, c'est par un effort qui est requis de chaque homme libre s'occupant de ces choses que la science est maintenue en vie.
Vous pouvez donner la référence peut-être de cette...
C'est donc Rationalité aujourd'hui, oui. Donc c'est, je vais vous le dire tout de suite, c'est le colloque qui a eu lieu à l'université, au Canada, organisé par Claude Panaccio, et c'est 80... je crois, mais je vais vous le confirmer tout à l'heure, il est dans ma biographie. Alors, oui, il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'aimerais réagir à ce que vous avez dit, mais je ne sais pas si...
Sur la notion de vérité, peut-être. Quand même,
sur la notion de vérité, vous avez tout à fait raison de dire que, je dis aussi, il a toujours été extrêmement prudent sur ce point. Mais, par exemple, dans, je crois, l'article... sur substance, c'est ça. Il discute de la question de la conformité à la pratique scientifique des positions, donc du point de vue de Carnap et du point de vue de Gödel dans la discussion sur la nature des mathématiques. Et il dit la conformité à la pratique scientifique est un critère de vérité et de vérité philosophique. Donc cette notion est toujours là. Cette notion est toujours là. Alors en quel sens ? Bien sûr, il y a un déplacement, c'est évident. Il y a un déplacement. Alors on croit qu'aussi ce déplacement, moi je crois que, bon, il y a d'abord la question de la cohérence, c'est évident, hein, système philosophique en tant que cohérent, donc il y a une notion de vérité comme cohérence. Il y a l'idée de la compréhensivité, c'est-à-dire de la capacité à rendre compte justement de l'ensemble de la science de l'époque, donc c'est pas simplement les mathématiques, mais c'est aussi les mathématiques, la physique. Mais il y a aussi, en un sens, ce que j'ai essayé de dire, une sorte de prédiction de second ordre propre à la philosophie, c'est-à-dire cette capacité d'envisager justement des solutions qui ne sont pas explorées à l'état actuel de la science. Et c'est une vérité, c'est clair, c'est un déplacement de la notion de vérité, parce que nous n'avons aucun moyen dans l'état, au moment où nous formulons un système philosophique, nous n'avons aucun moyen de vérifier cela, ni de le soumettre à la falsification, il n'y en a qu'un. Mais c'est effectivement... Justement, c'est toujours dans cette double perspective du développement de la science et de la philosophie que cette notion de vérité au second degré, c'est-à-dire une vérité des vérités, une vérité sur le développement futur des sciences qu'on peut trouver les raisons pour lesquelles il part tout de même de vérité scientifique. Il y a cette question difficile.
De vérité philosophique.
De vérité philosophique. Oui, de vérité.
Mais à votre avis, est-ce qu'il serait légitime, je pense que non, mais on peut se poser la question, est-ce qu'il serait légitime du point de vue de Vie humaine de parler d'une façon vraie de tracer la distinction entre l'apparence et la réalité. Parce que, formellement parlant, on peut tout à fait poser la question en ces termes. Dire qu'il y a bel et bien une façon vraie, enfin, ou correcte, si vous préférez, hein, de tracer. Il y a un en-soi de cette distinction, en quelque sorte, si vous voulez. Alors, assurément, nous, philosophes, aux prises avec notre finitude, ne sommes jamais arrivés et n'arriverons probablement jamais à une idée correcte de ce qu'est la distinction réelle entre l'apparence et la réalité. Mais il y en a une. Alors évidemment, il y aura immédiatement un désaccord philosophique fondamental sur cette question, et c'est un désaccord philosophique. Mais je me suis demandé souvent si Villemain avait pensé à ce type de désaccord comme désaccord philosophique. Le désaccord sur la façon de comprendre la différence entre l'apparence et la réalité. Il y a une façon qu'on pourrait qualifier de réaliste, hein, qui consiste à se dire qu'il y a bel et bien une ligne de démarcation, Dieu la connaît. Et puis il y a une façon anti-réaliste, si on veut bien l'appeler comme ça, ou Villemain dirait sans doute intuitionniste, hein, qui dit, pour ce qui concerne nous autres, nous êtres connaissants, hein, aux prises avec l'obligation de reconstruire cette distinction, il y a intrinsèquement différentes façons de le faire. Alors est-ce que ça aurait un sens, ou est-ce que ce serait abusif, hein, et intolérable de dire qu'il y a une façon vraie de comprendre et de tracer cette distinction?
Moi, je crois que c'est plutôt la deuxième solution. C'est-à-dire, lui aussi, il était convaincu qu'il y a différentes manières de le faire. Quand je parlais des différentes manières de dire le vrai, là aussi, c'est une question d'ontologie. Les différentes manières de dire le vrai, c'est justement les différentes manières de communiquer la perception et donc de poser la référence dans un énoncé élémentaire. Là, il n'y a rien à faire. Notre entendement est tel que il n'y a pas une seule manière de pouvoir le faire. Et tout de même, bon, il y a cette idée qui est quand même très, très liée aussi à de la logique de son époque. C'est vrai qu'il y a une influence de quoi là-dedans chez Villemain assez, assez forte. Enfin, cette idée quand même que la vérité, c'est bon, un ensemble d'énoncés. Donc ensuite, dans l'interprétation de la manière de justifier la vérité de ces énoncés, là, il peut y avoir divergence, mais c'est dans l'interprétation, ce n'est pas sur ce qui est.
Mais là, je crois qu'on touche en plus, si vous voulez, un problème. Le problème du choix de Villemain lui-même, pour autant qu'il en ait fait un, puisqu'il s'est toujours présenté, à ma connaissance, comme un historien de la philosophie, ou à la rigueur, un théoricien des systèmes philosophiques. Mais il a tout de même fait des choix. Par exemple, je pense que son attitude sur la question que j'ai évoquée, qu'en est-il de la distinction entre l'apparence et la réalité au regard de l'opposition entre les systèmes qu'il appelle dogmatiques et les systèmes de l'examen, je pense que sa position sur ce point-là est plutôt le situe plutôt du côté des systèmes de l'examen. C'est-à-dire, il aurait tendance à adopter sur ce point probablement une position qu'on pourrait qualifier d'intuitionniste. Alors que, par ailleurs, à la fin de sa vie, il est vraiment devenu explicitement réaliste sur la question. Alors, si on prend au sérieux l'exigence de systématicité, au sens où il le fait, évidemment, c'est quand même difficile d'être... On ne peut pas faire comme Demet. Hein. Demet, ça ne le gêne pas du tout d'être réaliste, d'adopter une position réaliste sur certaines catégories de propositions antiréalistes.
Ça, c'est de l'éclectisme.
Ça gênerait énormément Villemain. Donc, vous voyez, je regrette beaucoup de lui avoir pas essayé de lui poser certaines questions de son vivant. Enfin, vous me direz, c'est toujours comme ça, on pose pas aux gens les questions au moment où il le faudrait. Celle-là est particulièrement intéressante, de même que la question de son rapport à la vérité.
Ouais, la seule chose que ce qui m'intrigue, c'est justement cette différence entre la notion de classe de système philosophique et la notion de système philosophique. Alors, c'est vrai, les classes et systèmes philosophiques sont, entre autres, pour lui, presque, il y a une sorte d'incomparabilité entre eux. Mais étant donné une classe de système philosophique dans lequel le choix est déterminé aussi par des préférences qui sont rationnelles, mais ne peuvent pas être, et ne s'organisent pas selon un ordre des perfections, il a dit explicitement, à l'intérieur, une fois que le choix est fait à l'intérieur d'une classe, alors ce système donné est plus ou moins adéquat à rendre compte par ses moyens de la connaissance d'une époque. Et alors, dans ce... Donc, c'est pas le choix entre classe et système, là, c'est au mon sens, hors, de, hors d'un rapport de fatification, vérification, de tout ce qui peut être au dehors de la vérité. Mais une fois qu'on est à l'intérieur d'un système, pour une époque donnée, pour un système donné, alors là, le principe d'adéquation, en un sens, est assez fort. C'est ce qui l'amène, justement, à cette prise de position pour le réalisme dans les dernières années de sa vie.
Oui.
Je pense que c'est... il faut bien tenir distinctes ces deux aspects. La notion de classe et la notion de système appartenant à une classe.
D'accord.
Mais c'est tout ce que je peux dire sur la chose, parce que c'est effectivement une question extrêmement complexe.
Mais c'est déjà pas mal. Je vous remercie, vous avez sûrement des questions à poser à Gabriela Croco. Oui.
Merci Gabriela, d'avoir commencé, d'avoir terminé plutôt par Poincaré, parce que ça me semble un exemple scientifique qui introduit un peu la philosophie, et puis les philosophes scientifiques dont vous en avez parlé, notamment en France. Bon, le problème de l'espace, c'est sûr qu'il est assez compliqué, mais explicite aussi par le contenu philosophique. Aujourd'hui, il continue à y avoir des philosophes scientifiques vivants. Moi, je pense à François Lursa, par exemple, du CNRS sur la théorie du chaos. On peut parler de Bernard d'Espagne, de l'Académie.